Lyon demain, écoutez ma différence.
Vous êtes-vous posé la question de savoir pourquoi le nom de la station de métro Brotteau était de couleur bleue? Les autres stations sont affichées plutôt en blanc. Cette station a été en fait complètement réétudiée pour faciliter les trajets des personnes souffrant de handicaps mentaux. Une nouvelle signalétique que nous présente le designer Guillaume Bourdon.
Sur les quais, on trouve des marquages au sol pour où est-ce que je dois m'arrêter. En fait, tout a été imaginé pour les rassurer tout au long de leur trajet, quoi. Donc, où est-ce que je me pose quand j'arrive sur le quai avec le transport, que le train arrive, des espaces de sérénité pour m'isoler un tout petit peu. Et à l'étage, on a la notice où on présente l'ensemble des informations qui sont exploitées, notamment les pictogrammes, les couleurs, les informations, l'utilisation des flèches, qui n'est pas toujours très simple à comprendre, les références des sorties sur les plans.
Guillaume Bourdon a travaillé avec Keolis à la mise en place du dispositif, la ligne bleue, mais en s'inspirant également du ressenti des personnes handicapées. Charles a 20 ans, il est autiste Asperger et il a largement participé à la mise en œuvre du dispositif.
Il y a beaucoup de bruit, ça grouille de personnes. Moi, j'ai peur du monde, j'ai peur de la foule. Donc, je fuis les foules au maximum. Une ou deux fois, les portes en sortant, je me les suis prises. Elles se sont refermées sur moi. Donc, c'est assez impressionnant. Elles se ferment. Elles s'ouvrent vite, mais elles se ferment aussi vite. Donc, voilà.
Et là, ça apporte vraiment quelque chose, ces petits équipements qui ont été déjà mis en place au Brotteau.
Ouais, et puis là, grâce à une application qu'on a faite avec Peps, ce qui me permet de si je sais maintenant où me placer, j'ai moins de risque de me prendre la porte ou voilà. Par exemple, quand je rentre dans le métro, j'utilise ma carte et je suis les instructions, ce qui me permet d'être sûr de ne pas louper une étape.
Des marquages au sol définissent le sens de la montée et de la descente dans les escaliers. Les sorties sont numérotées, un espace sérénité permet de se reposer en cas d'affluence. Des sièges de couleur bleue sont réservés sur les quais et un panneau signalétique donne en quelque sorte le mode d'emploi de la station. La ligne bleue est une première en France, mais l'objectif est bien de l'étendre à d'autres stations, voire d'autres villes. Claire Compagnon est la déléguée interministérielle à la stratégie nationale pour l'autisme et les troubles du neurodéveloppement.
Ce que vous avez vu là, c'est une expérience de mise en accessibilité d'une ligne de métro et on voit bien, et c'est ce que nous disent tous les interlocuteurs, c'est à quel point c'est utile pour les personnes autistes, mais bien pour d'autres personnes, hein, les lumières, l'aspect apaisant, les sièges, la signalétique. Voilà, donc évidemment, l'intérêt et l'importance, c'est de pouvoir généraliser et modéliser ce type de dispositif vers d'autres opérateurs de transport. Il y a d'autres dispositifs d'accessibilité, notamment pour d'autres types de handicaps, pour les personnes sourdes par exemple, pour les personnes malentendantes, pour les personnes déficientes visuelles, ça existe dans les rues, dans plein de communes. Voilà, un dispositif d'accessibilité dans le métro pour des personnes autistes, c'est la première fois.
Nous avons voulu en savoir plus sur cette initiative inclusive et nous avons rencontré Jean Matty du groupement Lyonnais Les Traducteurs, un des porteurs du projet.
La ligne bleue, c'est un projet qui mobilise des personnes autistes pour améliorer la sécurité et le confort dans nos déplacements, surtout concernant le métro, dans le métro. Il faut imaginer que ces personnes-là sont hypersensibles principalement, il n'y a pas que ça, mais quand même. Et du coup, une hypersensibilité sensorielle mène à ce que à peu près tout soit toujours très désagréable, en fait. Il faut s'imaginer que tout est insupportable à vivre et que déjà nous, les neurotypiques que nous sommes, c'est déjà relativement insupportable le transport quand il y a beaucoup de monde, en dépit des efforts des opérateurs. Et bien là, il faut imaginer que c'est juste insupportable, voilà.
Les transports en particulier, donc un milieu hostile pour eux.
Exactement, parce qu'en fait, le bruit insupportable. Vous avez des perturbations de toucher aussi, c'est-à-dire concrètement, il y a des zones, on ne fait plus attention à ça, mais il y a des zones où nos pieds ne touchent plus les mêmes aspérités, plus les mêmes surfaces, en fait, types de surfaces. Et pour un hypersensible, c'est déjà un problème. Vous avez une hypersensibilité à la lumière aussi, c'est-à-dire, bah, voilà, vous savez comment c'est dans le métro, vous avez des panneaux d'affichage, vous regardez, votre œil est attiré par une lumière éclatante et vous vous rendez compte que ce n'est pas un panneau signalétique, mais que c'est une pub, par exemple. Donc il s'agissait d'être malin et de sans compromettre les nécessités qui sont liées par exemple à la pub dans mon dernier exemple, eh bien, il fallait quand même faire du bien à nos autistes et pour le plus grand nombre d'ailleurs que nous sommes.
Quel accueil vous avez eu de la part de l'autorité des transports?
On a eu de la chance, ils ont tout de suite dit oui, en particulier le Citral et Keolis, mais aussi Gare et Connexion SNCF, parce qu'on a fait un bout de chemin avec Gare et Connexion, puisqu'il y a une partie de Perrache qui est aménagée aussi, avec le même espace CAIR, avec de la signalétique aussi, et ils nous ont tout de suite dit oui, non seulement parce qu'on avait très sincèrement des dirigeants qui croyaient, c'est-à-dire que c'était des valeurs personnelles avec lesquelles ça rentrait. entrer en résonance, mais aussi par opportunité, parce qu'au fond, ça n'avait pas été déjà fait. Donc eux, ils trouvaient ça très inventif, très innovant, donc ils ont voulu foncer. Et puis parce qu'au fond, dernière raison, le projet a une vocation universelle, c'est-à-dire qu'on veut faire appel à des fragilités, mais pour que ça concerne le plus grand nombre de personnes possible. Et donc ça concerne nos opérateurs, ça intéresse nos opérateurs, puisqu'on plus on touche de monde, plus ils sont heureux et ils ont raison.
Ah, on parle beaucoup de la cécité, hein, des non-voyants. Il y a beaucoup de choses qui est fait pour eux. On a l'impression un petit peu que l'autisme est un petit peu l'oublié du handicap.
Oui, c'est pas faux. Hein. L'autisme a été pendant de longues années un peu le parent pauvre du handicap. J'ai beau être très fan personnellement de la psychanalyse, il faut bien avouer qu'il y a des courants psychanalytiques qui ont fait une mésinterprétation psychanalytique du problème de l'autisme. Pendant des années, concrètement, on a dit à des parents et à des mamans qu'elles étaient trop frigides, qu'elles étaient trop glaciales et que c'était en raison de leur comportement que leurs enfants se mettaient dans une bulle. Autisme, auto, en grec, ça veut dire soi. Ce repli sur soi, si vous voulez, était interprété comme un mauvais amour, un désamour des parents et en particulier des mères. Et ce mauvais usage de la psychanalyse a fait des ravages, vous l'imaginez, puisqu'il y a des mères qui se sont dit, mais moi je suis une mauvaise mère, je suis un mauvais père, etc., etc., etc. Et on s'est rendu compte, grâce à la science et au développement de la science, qu'en fait, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout d'abord le problème d'être aimé ou pas. C'est d'abord un problème de neurodéveloppement. C'est d'abord et avant tout un problème de neurodéveloppement, d'un trouble du neurodéveloppement. L'autisme est un trouble du neurodéveloppement. Et donc, partant des choses comme ça, c'est à la fois la mésinterprétation de l'autisme, mais à la fois une bonne interprétation scientifique du problème lié à l'autisme qui fait qu'on s'intéresse enfin à la juste place et à la juste mesure au problème de l'autisme.
Aujourd'hui, les choses changent, les mœurs évoluent et on prend plus en compte ce handicap.
Oui, clairement. Non seulement on le prend de plus en plus en compte parce qu'on a une délégation interministérielle qui a été vraiment créée pour ça. C'est quand même une volonté politique que de montrer qu'il y a une délégation qui est chargée de s'occuper d'abord de ce handicap. Ce n'est pas la question de privilégier un handicap, mais au fond, c'est la question de savoir que cette fragilité de l'hypersensibilité et ou de l'hyposensibilité, parce qu'il y a aussi des personnes autistes hyposensibles, en fait, c'est un handicap qui va nous river à nos démons les plus universels, puisque ce problème d'hypersensibilité revient à dire qu'au fond, on a toutes et tous des fragilités de fond et que ce serait beau, que ce serait bien qu'une société prenne en compte d'abord nos fragilités et que par la fragilité de quelques-uns, on se rende compte qu'on est tous vulnérables en fait. On a beau faire les beaux, on a beau faire les surhommes, les entrepreneurs de nous-mêmes, etc. Ce genre de discours, en fait, on est d'abord des êtres vulnérables. Et l'autisme nous rive et nous connecte à cette sensibilité, cette sensorialité au monde qui nous rive nous-mêmes, nous les neurotypiques que nous sommes, à notre vulnérabilité. Voilà, c'est ça le lien.
Et ce qui est fait aujourd'hui, par exemple, dans cette station de métro ici au Brotteau, sert évidemment au-delà du simple public autiste. Déjà, tout un chacun en bénéficie aussi.
C'est exactement ça. Dans les sièges, par exemple, je pense aux espaces de détente, aux espaces sérénité, ça s'appelle. Nous avons bleuté des sièges avec un logo qui dit que c'est un espace sérénité. En fait, ces sièges, on se rend compte avec les caméras de surveillance qui sont placées, et puis nos simples observations du reste, qu'en fait, ce sont les femmes enceintes qui s'y mettent, que ce sont les personnes âgées, que ce sont des gens, des fois, avec sans doute des handicaps invisibles, puisque rien n'est visible au premier abord, et puis quand on les interviewe, oui, moi j'ai ceci, j'ai cela. Au fond, comme on est tous vulnérables, effectivement, on a fait des installations qui puissent contenter, qui puissent convenir au plus grand nombre de personnes.
Jean Mathy du groupement lyonnais Les Traducteurs. En France, d'après la Haute Autorité de Santé, on estime à 700 000 le nombre de personnes autistes.